Rennes outragée, Rennes brisée, Rennes martyrisée, mais Rennes libérée.
4 août 1944. Deux mois après le débarquement en Normandie, l'armée américaine, sous les ordres du général George Patton, reprend la capitale de la Bretagne. Rennes est libérée. 80 ans plus tard, Syllab revient sur la libération de Rennes à travers le regard de celles et ceux qui l'ont vécu, de leurs descendants et descendantes, mais aussi des gardiens et gardiennes de leur mémoire. Épisode 2, S'informer sous l'occupation, le parcours du combattant. Dès l'arrivée des Allemands à Rennes, en juin 1940, les entreprises de presse sont mises sous séquestre. Imaginez un peu. À l'époque, pas d'internet, pas de réseaux sociaux. Quand la radio est brouillée et que l'Ouest éclair, ancêtre de West France, paraît après validation de l'occupant, comment s'informer sur l'avancée des troupes alliées ?
L'Ouest éclair reprend vers le 5-6 juillet, comme si de rien ne s'était passé. Il y a le marché aux fleurs avec une photo, place de la mairie.
Étienne Maignan, rennais d'à peine plus de 5 ans à l'époque, est devenu un spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale.
Pas un mot sur les bombardements allemands qui a eu lieu et qui a tué 1000 personnes, pas un mot là-dessus. Hein. Et puis la vie reprend. Il y a un fait étrange. Le 6 juin 1944, l'Ouest éclair titre « Aujourd'hui, arrivée de poissons ». Et alors, le censeur allemand dit « Ah, peut-être que c'est un message !» Arrivée de poissons, débarquement américain, non, il y a eu une arrivée de poissons annoncée. Les Rennais n'avaient pas assez de poissons, le poisson partait vers la région parisienne. Voilà le genre de choses qui se passaient. Ils étaient sous contrôle allemand. Un journal qui accepte de paraître pendant la guerre, en zone occupée, et forcément est un journal qui est amené à collaborer. Au tout début, il y a des journalistes qui, en 40, n'ont pas voulu tremper dans ce genre d'encre. Hein. D'autres, sans barguigner, ont accepté de travailler sous les fourches codines de la censure allemande. Ils vont faire leur chou gras des bombardements anglo-américains. Regardez ce que vos libérateurs sont en train de vous faire. Ils tuent vos femmes, vos enfants, ils vous bombardent de 6000 mètres d'altitude.
Jacqueline Saint-Clévier, professeure d'histoire contemporaine honoraire à l'Université Rennes 2, spécialiste de la France du XXe siècle, de la Bretagne et de la Deuxième Guerre mondiale.
Du côté de la famille Hutin qui possédait l'Ouest éclair, il y a une mise en retrait de leur part. L'un d'eux va effectivement agir dans la résistance par ailleurs. En revanche, on va avoir d'autres qui vont rester. Pour faire tourner le journal, il y a des employés. Certains ont pu continuer à travailler dans le journal, tout en étant, en cas de la résistance, en essayant de camoufler des gens, etc. Et d'autres ont pu être collaborateurs. L'un des problèmes auxquels on se heurte avec Ouest France, hein, héritier donc, de l'Ouest éclair, c'est le problème de l'accès aux sources, puisqu'il n'y a jamais eu moyen d'avoir les sources existantes sur le sujet de la part de West France. Ça permettrait de mieux montrer les ambivalences de la période, les difficultés, parce que tout le monde ne peut pas abandonner son métier du jour au lendemain. Donc c'est tout cela qui, sans doute, pourrait mieux surgir et être mieux visible. Les Français n'étaient pas dupes, mais s'ils achetaient le journal, parce que ça, on peut se dire, bah oui, mais enfin, ils achètent quand même le journal. Mais c'est parce que dedans, il y avait tous les renseignements pour la question du ravitaillement. Quel ticket était utile pour acheter des œufs, du beurre, enfin, etc. Par ailleurs, il y avait le cinéma, avec les actualités cinématographiques. Et donc, ces actualités, normalement, c'était dans le noir. Mais étant donné que très vite ça a été sifflé, elle se faisait donc avec la lumière allumée ou en partie allumée. Et là aussi, si c'était sifflé, c'est qu'on voyait bien que c'était faux, enfin que c'était de la propagande. C'est pour ça que les Français savaient très bien que c'était censuré, donc capables d'interpréter ou de lire entre les lignes. C'est ce qui fait aussi qu'ils cherchaient à se renseigner par la radio, par la BBC.
La TSF, on avait Radio Paris, hein. Puis les gens écoutaient la BBC un peu en douce, parce qu'il ne fallait pas laisser l'aiguille sur le poste BBC dans la journée. Si d'aventure on venait vous faire une visite domiciliaire et qu'on voyait que c'était sur tel canal, ça pouvait être ennuyeux. Donc les gens écoutaient la BBC le soir en général.
Ici Londres. Les Français parlent aux Français.
On entendait sur la BBC... Les émissions « Les Français parlent aux Français » avec Jean Marin, Pierre Bourdon. Et puis on entendait aussi Radio Paris-Mans, Radio Paris-Mans, Radio Paris est allemand. Radio Paris-Mans, Radio Paris-Mans, Radio Paris est allemand.
Radio Paris-Mans, Radio Paris-Mans, Radio Paris est allemand.
Autrement dit, croyez pas les mensonges de Radio Paris, écoutez-nous plutôt.
Le premier journal clandestin, c'est en 1941, il s'appelle La Bretagne enchaînée. Et il a été essentiellement rédigé par des enseignants ou des étudiants du lycée de garçons, ce qui correspond au lycée Zola aujourd'hui. Il y a eu 6 numéros jusqu'au moment de l'arrestation de certains rédacteurs. Autrement, il y a eu un journal du Front National de lutte pour l'indépendance de la France qui est lié au Parti communiste, Le Pays Gallo, à partir surtout de 1942. Par ailleurs, il y avait des journaux clandestins arrivant de Paris. Et en disant ça, je pense au journal Défense de la France. Il y a eu aussi Témoignages chrétiens. Et du fait de l'organisation de la résistance, il y a des relais un peu partout. Pour les journaux, en général, ça passe par les trains quand ils viennent de Paris. Et puis ensuite, c'est diffusé ici ou là. Donc, par exemple, Madame Élie, qui était sur le quai du Gué Trouin, qu'on appelait le prophète en pseudonyme, est elle-même une résistante, qui tenait une épicerie. Et donc, il y avait du passage. Donc, c'était un petit peu plus facile, entre guillemets, pour aller récupérer la presse.
Le 1er août 1944, c'est le dernier numéro de l'Ouest éclair. Le 3 août, la résistance a pris en main la presse, les journaux qui vont être mis sous séquestre. Mais l'Ouest éclair va reparaître dès le 7, quelques jours après. Les rotatives sont là, prêtes à fonctionner. Hein. Et puis, on garde un certain nombre de journalistes avec un nouvel état d'esprit, l'état d'esprit de la France gaulliste, qui vont travailler tout de suite.
À suivre demain, épisode 3, Rennes libérée.